Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est pas le début de la fameuse série sur l'école de l'amour, on va faire cela, mais ça fait un moment où je suis travaillé, et même samedi dernier, lors de notre culte, vraiment travaillé pour que nous grandissions dans le fait d'être ensemble. Mais pour y arriver, vous allez voir ce que je vais partager là, c'est la suite de ce que partageait Toan, et je voudrais l'encourager parce qu'il a prêché 3 fois de suite. Il a fait un bon. On peut acclamer et remercier Toan. Le titre de mon message, c'est le verset de Romains 8, 14 qui dit: Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. On était sur la série sur la filiation, le fait d'être fils. Et j'ai ce texte qui m'est vraiment tombé sur le cœur pour dire, en fait, on est tous enfants de Dieu, mais ceux qui grandissent dans la capacité d'être conduits par l'Esprit, la capacité d'entendre la voix de Dieu, la capacité d'écouter la voix de Dieu, d'y obéir et d'en faire une habitude de vie qui devient le Saint-Esprit me conduit. Je peux dire, en tant que croyant, le Saint-Esprit me conduit. Et la Bible dit, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es un fils. C'est-à-dire, tu as quitté le statut d'enfant, tu deviens fils. Il y a une maturité qui fait une vraie différence. Et je voudrais parler du trésor que c'est pour un enfant de Dieu de savoir entendre la voix de Dieu. C'est un privilège qui est donné à tous les enfants de Dieu. Et je crois d'ailleurs que les parrains et marraines de ceux qui sont tout nouveaux disciples, qui viennent de prendre leur baptême, qui cheminent comme ceci, l'une des choses essentielles à veiller, à transmettre à un disciple, c'est qu'il apprenne à entendre la voix de Dieu. Un disciple qui n'entend pas la voix de Dieu, qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit et qui ne peut pas dire j'ai la maturité, c'est pas une fois de temps en temps, non, régulièrement dans ma vie, je vois, je sais que Dieu me conduit. Et je peux l'attester, et d'autres peuvent le voir. Il y a une maturité dans ma relation, dans ma communion avec Dieu. Et pour moi, ça va nous conduire à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce sont les fils qui ont développé une oreille, une écoute, qui peuvent dire, on va se retrouver dans un endroit et on va tous entendre, on va tous sentir, saisir la pensée de ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Et l'Esprit de Dieu en ce moment dit quelque chose à l'Église. Notre Église, comme l'ensemble des Églises. Et il nous parle de se retrouver ensemble devant lui pour adorer. Et si on ne l'entend pas, on va passer à côté, on va vivre quelque chose de religieux. Et je voudrais vous dire, j'ai deux courants d'éducation chrétienne. Je suis né dans la Pentecôte, donc c'est les églises ADD, Assemblée de Dieu. Et je me suis converti. Et puis, dans ces églises-là, il y a une tendance à dire Dieu parle, mais Dieu parle rarement. On ne va pas rencontrer des gens qui vont se lever tous les matins pour dire Dieu m'a parlé. Et il y avait un sens de vénération de ce qu'est la parole de Dieu écrite. Mais il y a des dons spirituels, mais peu de gens. J'ai fréquenté pendant 12 ans cette assemblée, peu de gens venaient me dire Dieu m'a dit. Dans ma vie personnelle. On pouvait, dans un culte comme ça, entendre la voix de Dieu, parler. Vous savez, il y a des dons comme ça dont Dieu se sert pour pouvoir parler. Et en général, c'est plus facile d'en recevoir un don spirituel et la donner que d'entendre la voix de Dieu pour sa propre vie. Et moi, dans ce contexte, j'ai entendu régulièrement la voix de Dieu et je l'ai gardée dans mon cœur. Dieu m'a appelé, j'avais 17 ans, en lisant la parole de Dieu, c'était évident. Ce n'était pas une voix audible, mais je savais en lisant le texte de Jérémie 17, que Dieu m'a appelé. Je l'ai serré dans mon cœur et ça s'est confirmé par la suite. Mais il est indispensable pour un disciple de savoir entendre la voix de Dieu et de pouvoir le dire régulièrement. Et puis, j'ai quitté les ADD, je me suis retrouvé dans notre famille d'église qui est charismatique. Et là, je rencontrais des gens qui me racontaient tout le temps que Dieu leur avait parlé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, puis Dieu m'a parlé. Pour un parking, Dieu m'a parlé, vous voyez. Pour aller ici à droite à gauche, Dieu m'a parlé. Il y a un juste milieu. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous conduire, mais la maturité des fils, c'est d'apprendre à entendre la voix de Dieu et de la discerner pour sa propre vie. Je vais vous dire, moi, je peux recevoir très facilement des choses pour d'autres, mais quand il s'agit de la rencontre personnelle avec Dieu, vous allez le voir, il s'agit d'une marche, et on va s'inspirer de la marche d'Abraham à qui Dieu a parlé, et on va y tirer des choses pour qu'à la fin de ce culte, nous nous engagions à rentrer dans une relation, une communion avec Dieu qui va shifter et nous conduire à entendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire en ce moment. C'est fondamental. C'est fondamental. On peut des fois même être depuis longtemps, enfant de Dieu et pas pouvoir dire de manière évidente, je suis un fils parce que régulièrement je suis conduit. Régulièrement, à des étapes précises, Dieu me parle. Je le cherche et il me parle. C'est le même esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et vous savez, l'esprit conduit Jésus. Donc ce n'est pas qu'une question de parole précise dans notre vie. Il nous conduit, il le conduit dans le désert. Et pendant 40 jours, il jeûne. Et pendant ce temps, à un moment donné, il est testé. Et entendez bien ce que je vais vous dire ici. Souvent, quand Dieu nous parle, il y a des tests qui arrivent. Quand le Saint-Esprit nous conduit, il y a des tests qui arrivent. Et Dieu veut nous apprendre à l'écouter dans le test. D'accord ? Et sous test, il est éprouvé par le diable et il y répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il s'agit de la parole écrite, mais il s'agit d'une parole qui vient te nourrir. Où tu peux dire, je suis conduit par le Saint-Esprit et dans cette conduite, Dieu me parle et Dieu nourrit mon esprit. Sans cette parole, il y a comme une vie qui s'étiole. Tu n'as pas de force, tu n'as pas d'autorité. Ce qui donne de la sécurité, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit, d'entendre sa parole et de se laisser conduire. Alors on pourrait croire que Dieu veut susciter des Jeanne d'Arc qui voient, qui entendent. Il n'y a pas quelque chose de mystique dedans. Vous allez voir, c'est accessible à chacun. Et Dieu veut nous donner de l'assurance que même s'il ne va pas parler tout le temps, il va parler régulièrement, il va parler suffisamment, il va nous donner la manne dont nous avons besoin pour avancer. Développer une vraie culture, on va éprouver, parce que Dieu peut parler par inspiration, et effectivement, on réduit facilement, ou on en arrive facilement à dire « Dieu m'a parlé », mais en fait, avant que ce soit une parole comme ça, elle est éprouvée. Donc il y a des inspirations, Dieu peut nous conduire, il y a des circonstances, il y a plein de choses, mais avant de dire qu'il a parlé, c'est particulier, c'est ça que je voudrais développer ici. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles me suivent. C'est un privilège pour les enfants de Dieu de pouvoir connaître la voix du Maître. C'est un privilège. C'est essentiel que dans nos vies, on puisse vraiment être comme des brebis qui disent « Seigneur, je veux être habitué à entendre ta voix. » C'est-à-dire, tu parles, elle est habituelle, je connais le timbre, je sais que c'est toi qui me parles. Et à des moments, je sais que je sais. Je ne saurais pas vous le dire. Ton esprit sait que là, Dieu parle. Et tu fléchis le genou, tu t'inclines. Vous savez, c'est comme Élie. Élie est dépressif et puis c'est juste Dieu vient le rencontrer, il est découragé. Et puis Dieu lui parle une fois, Dieu lui parle deux fois, le rencontre et sa parole vient le restaurer à l'intérieur. Dieu veut parler à ses enfants, c'est une promesse. Et j'aimerais susciter une aspiration à dire, je vais entendre clairement la voix de Dieu, pas toujours de manière audible. Ça, c'est les expériences assez exceptionnelles de dire que c'est audible. Mais une évidence, ton esprit sait que Dieu te parle. Et là, pour que ça devienne une conduite, il s'agit de l'entendre, de l'écouter, d'aimer Dieu en disant « J'entends ta voix, je suis attentif et je vais obéir. » Et la conjugaison de ces trois fait de nous des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Mes brebis entendent ma voix. Alors, je vais lire le texte, si tu peux me le mettre, s'il te plaît, Nico. Ça va être un peu long, mais je voudrais que nous nous asseyions autour de la parole de Dieu. J'étais courageux, je vous demanderai de vous lever. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Est-ce qu'on peut dire amen, s'il vous plaît? Vous pouvez prendre place. La Bible nous dit que Abraham était l'ami de Dieu et quand Dieu l'appelle, il est dispo. Abraham, Abraham, il dit « Me voici. » Et vous savez, il faut de la maturité. Il faut avoir l'habitude d'entendre la voix de Dieu pour ne pas lui faire répéter. Abraham n'a pas eu besoin de dire « Seigneur, tu es sûr. » Et en fait, c'était bien précis parce que c'est ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et pour être sûr, il dit « Isaac ». Au moins là, c'est très précis. D'accord ? Il avait un autre fils qui s'appelait Ismaël. D'accord ? Mais là, il lui dit, c'est celui que tu aimes. Le contexte ici, Abraham a vécu toute sa vie dans l'attente d'avoir un héritier. Dieu lui promet qu'il aurait un fils. Il attend 25 ans. Les 25 ans sont réalisés. À 100 ans, Dieu lui dit, c'est maintenant que je vais accomplir la promesse. Il accomplit la promesse, il a un fils, mais il l'aime. Mais vous ne pouvez pas imaginer, quand on a un fils sur le tard et qu'on n'en a qu'un seul, qui est le fils de la promesse, il y a un attachement qui est profond. Et quand Dieu nous parle, en général, il va nous éprouver. Quand Dieu nous promet des choses, il va nous mettre à l'épreuve. Et très souvent, la promesse ici, Dieu veut nous parler. Le grand souci pour devenir des fils, c'est non seulement d'entendre, mais d'écouter, de chérir ce qu'il dit. Il y a une différence entre entendre et écouter. Tu entends un son, tu entends quelque chose qui se passe. L'écoute, c'est que tu vas le chérir, tu vas l'aimer au point d'obéir. Et l'obéissance, entendre, écouter, obéir, va développer une culture de « je veux être prompt à obéir à ce que Dieu me demande ». Et là, Dieu appelle Abraham, il dit « Me voici ». Et il sait que c'est Dieu qui lui parle. Et j'ai envie de dire, si vous relisez la Genèse, vous saurez que Dieu n'a pas parlé 1000 fois à Abraham. Il s'est révélé à plusieurs reprises. Des fois, il se passait des années, des fois des dizaines d'années avant que Dieu reparle. Mais il marchait, il vivait sur la parole que Dieu lui avait déjà dite. Et il était habitué à entendre la voix de Dieu. Quand Dieu lui dit « Maintenant, je vais t'éprouver, c'est moi qui te parle », il sait que c'est Dieu. Il sait que c'est Dieu. Dieu lui dit, et il se lève et il obéit. Moi, j'essaie d'imaginer la conversation avec sa femme. Parce qu'il n'a pas eu l'enfant tout seul, hein. Ils l'ont fait à deux. Et donc Sarah a aussi participé à la foi d'avoir cet enfant. Dieu le leur donne. Et à un moment donné, Dieu vient trouver Abraham, à qui il a fait la promesse. Il dit, OK, il faut y aller. Alors imaginez la conversation. Chérie, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Chérie, Dieu est en train de me demander de redonner. Alors, je ne sais pas s'il lui a dit. Comment ? Tu penses que non? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Tu vas où, Abraham? Alors, à des moments, là, on entend, ben là, on va aller adorer. Peut-être qu'il lui a répondu, on va aller adorer. Mais une chose est sûre, Abraham est conduit à offrir un sacrifice. Et l'adoration, hein, vous savez, on va le voir tout à l'heure, l'adoration sans sacrifice n'existe pas. D'accord? On va le voir tout à l'heure. Offre ton fils, celui que tu aimes. Il entend la voix, il obéit et il se met en mouvement. Il en parle, on le voit, la conversation avec son fils, il en parle avec les serviteurs certainement, mais il est convaincu de la voix de Dieu. Et puis, Dieu ne lui donne pas la destination, il lui dit, écoute, va au pays de Morija et il va y avoir une montagne que je vais te montrer. Vous savez, nous on a besoin, quand Dieu nous parle, d'avoir tous les détails. Il savait que c'était Isaac, mais il lui dit, une montagne que je vais te montrer. Il est en train de lui dire, mets-toi en mouvement, je ne vais pas tout te donner, mais parce que tu vas être en mouvement au cours de ta marche, je vais te reparler, je vais te redonner d'autres instructions. Obéis, mets-toi en mouvement. C'est-à-dire, parce que tu vas te mettre en mouvement, très souvent, on veut que Dieu nous parle ou que nous parle précisément, mais avoir tous les détails pour se mettre en mouvement. Dieu veut nous entraîner l'oreille et à entraîner l'oreille à Abraham, à entendre et à obéir. C'est-à-dire à ne pas attendre plus loin, mais sous pression. Imaginez 3 jours de marche avec son fils, avec les serviteurs. 3 jours de marche et il ne sait pas où il va. Il est obligé de garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Puis à un moment donné, il voit une montagne. Et dans son esprit, Dieu lui dit, c'est cette montagne-là. Il a commencé à obéir. Il se met en mouvement. Et dans la marche, Dieu lui dit, je vais continuer à te donner la main. Je vais continuer à te conduire. Je te conduirai. J'aurai le regard sur toi. J'ouvrirai la voie. Et Dieu veut garder une proximité avec nous. Moi, je crois que Dieu a déjà parlé à plusieurs et ils savent. Et Dieu dit, mets-toi en mouvement. Et pendant que tu es en mouvement, je vais te parler de nouveau. Je sais, dans mon esprit, en préparant ce temps, Dieu a parlé à plusieurs. Et des paroles fortes, des paroles qui coûtent, des paroles qui sont un acte de sacrifice où tu vas sortir de ta zone de confort. Abraham, franchement, il était dans une zone de confort. Franchement, comblé. Il a tout, toutes les promesses sont réalisées. Il attend que de quitter, d'aller. Il est attaché à son fils. Et Dieu lui dit, t'as pas terminé, jusqu'à ce que tu quittes, je vais t'éprouver. Et je crois que Dieu est en train de nous défier en tant qu'église clé. Nous sommes dans des zones de confort. Et ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'église, il y a des moments de sacrifice que je suis en train de vous demander. Chacun va écouter ce que Dieu va demander. Parce que pour aller plus loin, pour recevoir la promesse qu'on a entendue après nous, on veut la bénédiction, on veut les choses grandes. Mais il y a un prix à payer. Et souvent, on veut la résurrection. Hébreux nous dit qu'Abraham, en vivant cela, ça c'est peut-être ça qu'il a raconté à sa femme. On va vivre un truc extraordinaire, je vais sacrifier, puis Dieu va le ramener, je ne sais comment, mais Dieu va le ramener. Il est dans la foi que Dieu ne peut pas revenir en arrière sur ses promesses. Et il échafaude peut-être des plans. Mais je voudrais dire à chacun de nous, individuellement comme en tant qu'Église, Dieu veut nous faire sortir de notre zone de confort. Et pour nous faire sortir de nos zones de confort, il nous éprouve. Il éprouve Abraham et il lui dit, sacrifice qu'il y a de plus précieux. Ton cœur s'est attaché à quelque chose que tu ne devrais pas, à la bénédiction. C'est moi qui suis la source de la bénédiction, attache-toi à moi. Et Abraham, dans son amour pour Dieu, il choisit de sacrifier. Alors je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de vous dire. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de vous demander comme sacrifice. Mais c'est sûr. Et on va voir que la finalité de cela, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas. On pourrait croire. Hein, pour ceux qui découvrent l'évangile ou ce texte pour la première fois, on pourrait dire, mais c'est un Dieu sanguinaire. Non. Ce qu'il cherche, c'est le cœur d'Abraham. Ce qu'il cherche, c'est que le cœur d'Abraham revienne à lui et qu'il soit le premier. Si le cœur d'Abraham est le premier, Dieu va lui redonner non seulement Isaac, mais il va bénir sa postérité. En fait, on veut la résurrection, la vie de résurrection, on veut le royaume, on veut l'impact sans le sacrifice qui va avec. En fait, on ne peut pas avoir de résurrection s'il n'y a pas de mort. On ne peut pas avoir la gloire, la puissance s'il n'y a pas ce lâcher prise. Et je crois qu'il y a un rendez-vous de notre Église à redonner à Dieu, à le mettre au centre, à lui dire qu'il est le premier. Et si on accepte d'être sondé, on va voir ce que le Seigneur va nous demander. Et je voudrais déjà dire que dans ce que le Seigneur dit, quand il dit, il veut nous rassembler, il veut nous unir. Vous savez, dans ce texte, il est dit, et ils marchèrent tous deux ensemble. Tu sais, il s'agit d'Isaac et d'Abraham. À plusieurs reprises, comme un refrain. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous savez, dans ces, le fait de sortir de la zone de confort, ça va nous conduire de marcher ensemble. Si chacun de nous faisons le sacrifice d'obéir à Dieu et de payer le prix, automatiquement, en sortant de la zone de confort, ça va produire un rapprochement les uns des autres et on va marcher ensemble. L'objectif du Seigneur, dans cette saison, il nous donne de payer ce prix. Et je crois qu'il y a une part qui est individuelle, comme il y a une part qui est communautaire, de chercher sa face, en fait, d'adorer. Ce que le Seigneur est en train de nous inviter à quoi ? Ça a adoré nous. C'est ce que Abraham dit, hein. Nous irons à cette montagne-là, 3 jours de marche. Nous irons adorer. C'est la première fois que la parole de Dieu utilise le mot adorer. On va les sacrifier. On va les donner à Dieu, la première place. On va lui redire que c'est lui la source de tout et qu'on ne s'attache pas à la bénédiction, on s'attache à lui. Alors, j'imagine la conversation des serviteurs avec Abraham. On aura tout à l'heure la conversation d'Isaac avec Abraham. Mais les serviteurs auraient pu demander, mais où allons-nous ? Je ne sais pas. Pendant 3 jours, où allons-nous ? Je ne sais pas. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit parle. Vous savez, il y a des moments dans nos vies comme ça où on sait et les autres ne savent pas. Isaac ne savait pas que c'était là la montagne. Les serviteurs ne savaient pas que c'était la montagne. Mais celui qui commence à se mettre en mouvement pour obéir à Dieu, pour sacrifier, et qui garde son cœur, ses yeux ouverts, en disant « Seigneur, je te cherche », on n'a pas toujours les réponses. Vous savez que celui qui est conduit par Dieu n'a pas toutes les réponses. En fait, ça produit dans nos vies une zone d'insécurité, une zone de fragilité, une zone de dépendance. Si tu n'es plus en fragilité, en dépendance, en recherche, où tu guettes, « Seigneur, c'est où, c'est quand ?» Tu ne marches plus par la foi. La voix de Dieu va te conduire à sortir. Il est important de sortir de sa zone de confort pour produire le miracle. On veut le surnaturel qu'on attend. On veut la mesure du royaume de Dieu qui a commencé et qui va aller plus loin. Ça va nous demander d'obéir et de se mettre en insécurité. De se mettre en insécurité. Et puis de guetter. D'être comme un sentinelle qui guette, qui guette, qui guette. Et puis tu vas percevoir la montagne. Je sais que je sais. Je sais que c'est la maison que Dieu m'a donnée. Je sais que c'est la saison. Je sais que c'est la ville. Vous savez, quand Manu et Nat nous ont dit, on sait, on a entendu. Pour moi, c'est un peu ça. Hein. Abraham dit, Dieu dit, il faut aller, il faut se lever, il faut y aller. Je le sens dans mon esprit. Et c'est important d'écouter ce que le Seigneur dit. Quel que soit ce que ça va coûter, je me mets en mouvement. En me mettant en mouvement, en me sortant de ma zone de confort, c'est sûr, quitter le soleil pour le froid, c'est un sacrifice. Obéir à la voix de Dieu. Et vaut mieux être là où Dieu veut que tu sois, même si c'est dans le froid, tu vas vivre des choses que tu ne pourrais pas vivre en restant là où tu es. Ça peut être un lieu, ça peut être une vocation, ça peut être des actions particulières à mener, un projet que Dieu a inscrit au-dedans de toi. Dieu réveille ces choses et il te demande de te mettre en mouvement et d'être en attente. Et c'est comme si finalement l'oreille s'aiguise parce qu'on se met en mouvement. L'épreuve, c'est pas tant... Dieu veut éprouver la capacité d'écouter sa voix pendant que tu es éprouvé. Je vais offrir mon fils, qu'est-ce qui va se passer ? Tu es sous pression. Et Dieu continue à te dire, je vais te montrer, reste attentif. En fait, l'école, c'est de se mettre en mouvement et d'être toujours dans l'attente que Dieu parle, toujours dans l'attente que Dieu nous amène plus loin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Abraham vit de loin. Et je crois que dans ces moments d'insécurité ou dans ces moments de fragilité, Dieu veut nous conduire à supporter le silence. C'est pas, ou la solitude. Écouter Dieu demande à ce qu'on apprenne à se taire. Écouter Dieu demande à ce qu'il y ait quelque chose qui baisse comme pression, qu'on accepte qu'il ne parle pas. Parce que je vais vous dire, Dieu parle, mais des fois, il ne parle pas. Et pour qu'il parle, il faut laisser le temps de silence. Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne pendant 7 jours, Dieu n'a rien dit. Au bout de 7 jours, Dieu s'est mis à parler. Si on veut faire une différence, il nous faut développer l'écoute. Cette écoute-là qui dit, pendant 3 jours, il n'y a rien qui se passe et à un moment donné, il voit. Et quand il voit, il sait que c'est Dieu qui a parlé. Mais entre le moment où il a parlé la première fois et la deuxième, il y a 3 jours et c'est du silence. On lit l'histoire, on a l'impression que ça se passe en 5 minutes, en 10 minutes ou en un quart d'heure. Non, non, il y a 3 jours. Mais l'esprit d'Abraham est connecté à l'esprit de Dieu jusqu'à ce qu'il reparle. Pour cela, il faut supporter le silence. Pour que Dieu parle, il faut qu'il y ait des silences, je vais vous dire. Il ne parle pas tout le temps, c'est pas, vous voyez, dans le sens où Dieu n'est pas dans un débit incessant. Quand il parle, il faut que nos esprits soient prêts à entendre. À supporter le silence. Quand vous prenez un temps à part, le matin, comme à un autre moment où vous êtes à part, vous cherchez Dieu, je vous encourage à couper vos téléphones ou mettre en mode avion, vous savez, pour apprendre à écouter. Ça demande du courage. C'est un prix d'écouter patiemment, d'écouter attentivement, d'écouter en laissant vraiment baisser la pression. Il dit, Seigneur, je suis là. Me voici. Seigneur, me voici. Parle à mon cœur, parle à mon esprit, parle profondément. Et je veux accepter toutes les crises dans lesquelles tu me fais passer. En fait, Dieu l'éprouve avec ça, Dieu nous éprouve les uns et les autres d'une manière ou d'une autre. Ça peut être physique, ça peut être relationnel, ça peut être quel que soit le domaine. Les tests où il nous demande de lâcher prise et de développer notre écoute. Et puis, il a dû, au verset 4 et 5, Abraham a dû dire à ses serviteurs, restez là. Il dit à ses serviteurs, restez avec l'âne. Nous, avec mon fils, on va aller. Et vous savez, les moments de consécration, ces moments-ci de consécration sont des moments où on doit se séparer de certaines personnes. Où on doit moins donner d'autorité à ce que certaines personnes disent. L'influence de certaines personnes pour monter plus haut. On a entendu samedi dernier la montagne, Dieu veut nous parler sur la montagne, il veut pourvoir sur la montagne, on va plus haut. Mais il y a une période, il y a un moment où on doit se séparer de certaines voix, de certaines influences. Tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux rencontrer Dieu, tu veux qu'il se manifeste puissamment, tu veux que vive la résurrection, tu veux vivre la provision de Dieu. Eh bien, c'est des étapes où, à un moment donné, tu vas devoir accepter de te confronter, de te séparer. Pour un moment de consécration, il faut une séparation. Pour un moment où tu vas aller plus loin pour voir Dieu à l'œuvre, il y a une séparation. Restez là. Pourquoi il n'a pas pris les serviteurs? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que nous avons des gens autour de nous qui peuvent avoir de mauvaises influences. Dire des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Je me souviens, quand j'ai pris la direction de l'église ici, je prie, Dieu me parle clairement. Oh, et je panique, enfin, voyez, toutes les scènes d'appel, que je panique et tout ça. Et quand je me suis relevé, que j'en ai parlé à d'autres, au moment où j'étais en train d'obéir, d'autres m'ont dit, c'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, un peu comme pour Pierre qui dit à Jésus, hé, à Dieu ne plaise, c'est pas la volonté de Dieu. Alors moi, j'ai pas eu le courage de dire, arrière de moi, Satan. Mais j'ai eu le discernement que c'était la crainte qui parlait. C'était une pensée humaine, une pensée insécure. Donc, s'il n'y a pas ce discernement-là, il faut savoir que dans l'obéissance à la volonté de Dieu, des gens vont se lever pour vous dire l'inverse. Et il va falloir choisir de s'opposer à cela, pas dans la chair, pas à la personne, mais à tenir ferme sur ce que Dieu dit. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des amis qui vont nous confirmer, des consultants, des personnes en maturité qui vont venir, qui vont, eux, justement, ne pas céder ni à la crainte, mais qui vont avoir de la maturité, certainement. Mais il est important d'entendre la voix de Dieu, d'y obéir, et étape après étape, savoir se dissocier, se séparer pour un moment de consécration. Rester ici avec les ânes. Rester ici, nous, on va aller plus loin. Et l'importance de vraiment discerner ceux qui ne sont pas destinés à aller avec nous dans les hauteurs, dans la nouvelle étape. Il est important de discerner les personnes avec qui tu vas vivre une communion. Et on va marcher ensemble. Je ne parle pas de la communauté ici. Hein. Ça parle de communion, de relation entre nous. Mais de la capacité. Si tu es disciple Dieu te donne le privilège d'entendre sa voix. Dieu te donne le privilège d'arriver à des étapes où il y a un courage important de séparation. Il y a certainement dans ton entourage des personnes qui disent des choses où dans ton esprit tu dis ça joue pas. Et peut-être tu peux être sous un joug d'une influence qui n'est pas d'en haut, qui n'est pas inspirée. Dégage-toi. Et monte plus haut. Et puis, je parlais des silences de Dieu, mais il y a aussi de la solitude à ce moment-là. En fait, Abraham est seul. Même son fils ne comprend pas ce qui se passe, mais il est seul. Avec la voix de Dieu, avec l'intention de Dieu, qui a toujours pour but de te faire grandir, de te transformer à son image. Il n'y a pas un autre... Vous savez, il y a un mystère autour de la souffrance. Pourquoi Dieu utilise des tests, des crises, de la souffrance? Si notre cœur entend sa voix, on a la clé pour sortir de là. Mais si tu ne l'entends pas, la souffrance va te détruire. Mais en l'entendant, tu peux vraiment sortir de là et tu as une bénédiction, non seulement pour toi, mais pour d'autres. Et il accepte la solitude. Vous savez, le nombre d'hommes de Dieu qui ont vécu la solitude après avoir écouté Dieu. Alors, Joseph en est un cas, puis il y en a tellement d'autres. Jésus lui-même a été dans la solitude. Et en fait, il nous faut accepter et aimer la solitude, le silence. Sinon, il n'y a pas de maturité dans l'écoute, dans la marche, dans l'obéissance, dans le fait d'être des fils. Alléluia. Alors, j'aimerais bien lire ça au verset 9, s'il te plaît. Cette étape importante juste avant le moment de sacrifice. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Ah non, c'est avant, donc c'est 6, excuse-moi. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. En fait, je voudrais dire ici qu'on a un mystère de la parole de Dieu, une révélation profonde. En fait, c'est ce que Jésus va vivre qui est décrit ici. Quand il est seul, même les disciples avaient abandonné Jésus, mais quand il est seul, Abraham met sur le dos de son fils le bois. Et Isaac, à ce moment-là, est en train de vivre exactement ce que Jésus allait vivre, va prendre la croix et monter à Golgotha. Il monte à la montagne pour aller plus loin. Et il y a une préfiguration du sacrifice de Jésus et de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, par la suite, on entend eh bien, à la montagne de l'Éternel. Finalement, à la croix, il sera pourvu. Le sacrifice que Dieu nous demande de faire, lui-même l'a fait pour nous. Et je voudrais même en profiter pour dire à plusieurs qui peut-être n'ont pas compris l'amour de Dieu le Père qui a donné son Fils. En fait, il est là. Dieu est en train de dire, il arrivera un temps où, en fait, c'est pas nous qui devons être sacrifiés, c'est mon propre Fils que je vais donner à la place. C'est une préfiguration du message puissant de la grâce de Dieu. Dans tout ceci, c'est possible de continuer de marcher, d'obéir à Dieu et de faire ce choix de sortir de sa zone de confort que parce que la grâce de Dieu, à chaque étape, sera là pour pourvoir à ce qui est nécessaire pour pouvoir continuer. Notre Dieu a pourvu à absolument tout. Et je voudrais finir en deux points. Abraham prit le bois et le met sur son fils et porta dans la main le feu et ils marchèrent tous ensemble. La suite, s'il te plaît. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» En fait, où est le sacrifice? C'est comme si, moi je crois prophétiquement, cela est en train de dire, « Tu m'adores, tu me chantes, tu dis que je suis ton Seigneur, tu dis que je suis ton Dieu, mais où est le sacrifice ?» On ne peut pas dire que nous adorons Dieu s'il n'y a pas quelque chose qui est donné et sacrifié à Dieu. Romains 12 nous dit, à cause de toutes les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice. Il y a quelque chose à offrir. pour discerner la volonté de Dieu, pour que Dieu continue de nous parler, de nous amener plus loin. Il y a quelque chose à livrer, à offrir. Il y a quelque chose à abandonner. Il y a un choix. Il y a quelque chose de radical qui s'abandonne à Dieu. Et Dieu, et par la suite, il dit, mais c'est ainsi votre culte agréable à Dieu. Et du coup, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. On veut entendre la voix de Dieu. Ça prend un sacrifice. Et c'est comme si le Saint-Esprit disait, où est donc le sacrifice? Isaac dit, où est le sacrifice? Et là, il y a une parole extraordinaire de la Bible, Dieu pourvoira. Alors qu'il va sacrifier son fils. Il a la foi que Dieu pourvoira. Il obéit, il va jusqu'au bout, mais il dit, j'ai la foi en la puissance de la résurrection. Je crois que Dieu va agir, mais moi, je dois offrir ce qu'il y a de plus précieux. Je crois qu'il aimait son fils plus que lui-même. Et Dieu dit, offre-le en sacrifice, donne-le-moi. Il faut qu'il me revienne et que ce soit moi le Seigneur. De ton cœur, de ta vie, sors de ta zone de confort, donne-le-moi. Et il le fait. Et c'est la preuve, il le fait, il lève la main. C'est une scène, mais c'est une scène tellement profonde. De l'amour d'Abraham envers Dieu, mais de l'amour de Dieu envers Abraham. En fait, il sauve Abraham à ce moment-là, de l'idolâtrie de son fils. Et il y a tellement d'idolâtrie, des choses qui... Ce qu'on a placé notre confiance, notre foi, notre amour, et qui viennent en compétition devant Dieu. Qui produit une zone de confort dans nos vies. Je peux vous dire, si on ouvre nos yeux, si on l'accepte, cela va nous montrer, et il dit, sacrifie. Ça va faire de nous une église consacrée. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu attend notre assemblée, notre église, notre communauté a retrouvé le ensemble après les sacrifices. Il y a un ensemble qu'on ne peut pas vivre tant qu'on n'a pas livré nos vies. Après ce moment, ils étaient ensemble, comme à la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Dans un même lieu. Et le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a approuvé. Il y a des langues de feu qui sont descendues. Il y a quelque chose de puissant qui nous attend après ce moment où on se donne à lui. Alors, il a lié son fils. Et je me dis, mais c'est quoi la conversation? Il lui dit, Dieu pourvoit, mais il lie son fils. Vous savez qu'à l'époque, moi, j'essayais d'imaginer Benjamin, on est en train de marcher sur la montagne. Et puis je lui raconte cette histoire-là. Ouais, Dieu pourvoira. Puis je me mets à l'attraper pour le lier. Je dis, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Et vous savez, le Isaac, là, avec le Abraham qui devait avoir 120 ans ou quelque chose comme ça, s'il fallait se battre, là, s'il fallait résister, mais il aurait plié Abraham. Vous comprenez ce que je veux dire? Il était vieux. Donc, mon fils. Je ne sais pas comment ça se passait, toi. On l'a attrapé, tu sais, mais... Ouais. Vous savez... Là, à ce moment-là, c'est vraiment Jésus hein, qui accepte d'être lié. Il accepte. En fait, tous deux comprennent ce que Dieu est en train de faire. Il y a une révélation. Sinon, ou alors il est maso, ou je ne sais pas quoi. Il l'a saisi, il a la révélation que finalement, c'est une intention. Dieu va faire un miracle. Il accepte d'être lié, alors qu'il aurait largement eu de quoi se débattre pour empêcher cela. Il accepte. Il est mis là sur l'autel. En fait, ils adorent tous les deux. Ils adorent tous les deux. Il accepte d'être là. Et Abraham va jusqu'au bout. Il lève la main. Et là, Dieu dit, Abraham, stop. Et je vais m'autoriser une chose, vous savez. Il a entendu la voix de Dieu 3 jours avant, d'accord? Et puis Dieu avait besoin de lui dire une autre parole qui infirme la première parole. On a besoin d'entendre. Quand nos oreilles sont ouvertes, nos yeux sont ouverts, et que Dieu continue de parler, on va entendre ce qu'il a à nous dire maintenant. Sinon, si on ferme nos oreilles, on risque d'obéir à une parole qui n'est plus d'actualité. Et souvent dans nos vies, parce qu'on ne continue pas à écouter, savez, Dieu il dit des choses. Il nous faut être attentif. Comme pour la toile, vous savez, Pierre, il est là, il est en train d'adorer, il voit une toile, il ne comprend pas. Dieu dit, bon, ça, c'est l'ancien, maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Imaginez Pierre, alors là, je suis en train de citer dans Actes, Pierre, il cherche Dieu, et Dieu est en train de lui dire, on est dans le Nouveau Testament, je fais des choses nouvelles, et ce qui était ancien est aboli, maintenant, je fais des choses nouvelles. Et toi, tu dis, non, Dieu a parlé, c'est sa parole, elle est éternelle. Vous voyez, je ne sais pas si vous me suivez, là. Il me l'a dit, et donc je suis dans le passé, et je me mets à appliquer aujourd'hui une chose. Et Dieu est en train de me parler, il fait quelque chose aujourd'hui, et j'applique une parole qui est d'hier. Et du coup, imaginez Abraham qui n'entend pas la voix, ou qui est sourd, et puis il égorge son fils. D'où l'importance d'entendre la voix de Dieu. On pourra en développer des choses, hein. Des choses que nous faisons par légalisme. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'esprit de Dieu. Donc, du coup, ça vient tuer. La lettre tue, dit la parole. Si ce n'est pas une parole inspirée, si ce n'est pas Dieu qui a parlé, si tu ne l'entends pas, tu n'arrives pas à capter, il capte, il dit hop, arrête. Il arrête parce qu'il a entendu. Il est toujours alerte. L'antenne est déployée, il a entendu lui dire stop. Ah oh, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que... Non. Ah bon, mais pourquoi, comment? Non. Il capte que Dieu lui dit, c'est autre chose. Et il saisit ce que son esprit est en train de désirer, il le saisit. C'est ça la résurrection, c'est une forme de résurrection. C'était donc ça. Et la bénédiction, waouh. Est-ce que nous voulons ce type de bénédiction dans nos vies? On va entendre la voix de Dieu, la gloire, la révélation, on le veut. Mais le rendez-vous pour nous ici, c'est le sacrifice. C'est quoi ton Isaac? C'est quoi la zone de confort? Vous savez, il y a plusieurs manières de vraiment discerner ce qui, dans nos vies, nous empêche de vivre, de monter plus haut. C'est qui tes serviteurs? C'est qui l'âne que tu dois laisser là? Et il y a une provision extraordinaire. C'est qu'il y a un animal qui est attaché par les cornes, un bélier. Dieu a pourvu. Vous savez, l'obéissance qui déclenche les choses, Dieu pourvoit. C'est juste extraordinaire. Il a pourvu pour lui-même. Et là, j'aimerais qu'on adore à la croix où il a été pourvu. Je voudrais nous inviter à répondre au Seigneur ce matin. Et ça peut être en se levant simplement, en se mettant à genoux, mais il y a un rendez-vous à sortir de la zone de confort. Il y a un rendez-vous à sacrifier, il y a un rendez-vous à redonner la première place à Dieu. Il y a un rendez-vous à dire que c'est lui le premier, c'est lui qui est au centre. Un rendez-vous à dire, je veux être conduit par l'Esprit, je veux entendre la voix. Accepter sous pression de continuer à être à l'écoute et d'obéir promptement. Le Seigneur va demander de consacrer du temps, il va demander de consacrer de l'argent, il va demander de consacrer des relations. Il va demander de faire des pas radicaux, des choix radicaux. Mais pour que sa gloire, que la puissance de résurrection soit là, pour que le royaume soit manifesté, pour qu'il se serve de nous et qu'il dit, il est obligé de dire « Je jure par moi-même, je fais un serment, je te bénirai parce que tu as obéi à ma voix. » Et dans cette saison, il y a, je crois, un appel du Seigneur. Profondément identifier cela, se mettre à part et du coup à marcher ensemble. Un appel à être ensemble dans l'adoration, c'est ensemble dans cette saison qu'il nous faut aller vers lui. Alors répondons au Seigneur. En ce temps, répondons au Seigneur. Cette parole nous dit dans Le psaume, oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Alors que tu obéis, le Seigneur te dit, regarde au-dessus de ton épaule, il y a un bélier qui est attaché. Alors que tu fais cette marche, que tu décides de suivre, il parle de sa provision. Et sa provision est multiple, c'est pour le sacrifice, mais pour tellement d'autres choses. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne, c'est là-haut qu'il sera pourvu. C'est dans tout ce parcours qui sera pourvu. Il y a des provisions qui viennent après un lâcher-prise profond dans nos cœurs et dans nos esprits sur ce que Dieu a désigné comme Isaac dans nos vies. Alors, nous fléchissons le genou et nous te redisons, tu es le Seigneur. Nous fléchissons le genou, Seigneur, et nous voulons te suivre, nous voulons entendre ta voix. Je te demande... que ta voix soit clairement entendue, mais accueillie, obéie pour marcher à ta suite. Pour des temps à part, pour des temps de recherche de Dieu, pour des temps où vraiment on accepte de payer ce prix pour que tu continues de nous conduire étape après étape au nom de Jésus-Christ. Je te prie de fortifier tous ceux qui sont déjà en mouvement, qui ont vraiment décidé d'obéir, fortifie-les, alors qu'ils marchent, ça fait un jour, ça fait deux jours, ça fait peut-être trois jours. Merci pour les moments où tu vas confirmer, et dans cette ascension, tu vas vraiment fortifier pour aller jusqu'au bout. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des jusqu'au boutistes qui décident de persévérer dans l'écoute de Dieu, dans les prix qu'il y a à payer, dans les sacrifices qu'il y a à faire, au nom de Jésus. Et nous savons qu'en toi, elles ne sont pas vains. Nous semons dans la foi. Et merci pour l'esprit de résurrection qui vient sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de résurrection. Esprit de résurrection. Esprit de résurrection. Alléluia. C'est toi qui conduis. C'est toi qui nous conduis et qui fais de nous des fils. Et Seigneur, je te remercie des fils et des filles que tu plantes dans ta maison. Je te remercie de ceux, Seigneur, qui vraiment acceptent de grandir dans cette discipline, d'être conduit par toi, d'écouter ta voix, d'obéir et d'avoir ce caractère de fils marqué d'en haut. En disant, c'est ta volonté et non pas la nôtre. Ta volonté et non pas la nôtre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.